Écoutez, on est désolé, comme vous l'avez vu, il y a un problème technique. Et donc là, ils sont allés chercher un autre ordinateur. Il y en a pour, en théorie, une vingtaine de minutes. Et ce que je vous propose, ben, si vous voulez, on peut commencer à échanger un petit peu. Je peux déjà me présenter. Ça gagnera du temps peut-être au début de la conférence. Et je m'appelle Serge Brett-Morel, je viens de Lyon. Ce qui fait ma caractéristique, ma particularité, c'est que je suis un ex-astrologue. Donc j'ai pratiqué l'astrologie. J'ai été membre du bureau d'une association nationale en France qui s'appelle la Fédération des astrologues francophones. J'y suis resté presque 10 ans. Et en fait, dans mon parcours, comme j'ai une formation en maths et physique, et puis après philosophie, et puis à la fin histoire et philo des sciences, j'ai toujours eu un esprit critique assez développé, on va dire. Donc j'étais un petit peu la brebis galeuse dans le milieu. Et en fait, moi, j'avais la particularité de m'intéresser à plutôt ce qui ne marchait pas. Alors qu'en astrologie, en général, on essaye d'utiliser pour aider les gens, etc. Donc on cherche toujours ce qui marche, et puis on verra que ça marche tout. Ça marche trop, en fait. Et puis moi, j'avais quand même une formation qui me poussait à me dire, ça ne peut pas tout marcher, et ça serait bien de faire un petit peu le ménage. Et puis naïvement, je me disais, allez, on va faire comme Descartes, comme j'ai fait de la philosophie. Donc je vais suspendre mon jugement, et puis je vais reprendre tout à zéro, et puis on va faire le ménage, et puis après, ça sera plus simple. Et je ne savais pas où je m'engageais, en fait, c'était il y a plus de 10 ans. Et en fait, j'ai commencé mon autocritique, on va dire, de l'astrologie. Et petit à petit, j'ai cumulé un petit peu les arguments, les problèmes, j'ai pris du recul, j'ai été beaucoup en contact avec les astrologues un petit peu de partout en France. Donc ça m'a aussi beaucoup nourri à ce niveau-là. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions qui ne se posaient pas. J'ai vu évidemment que l'information scientifique ne passait pas dans le milieu, pour des tas de raisons. Que la critique en elle-même n'était pas transmise non plus, mais que très souvent elle n'était pas comprise non plus. C'est vraiment des questions. Il y a plein de questions comme ça qui se posent dans le milieu. Et donc moi, ça m'a encore plus incité à aller de ce côté-là, en me disant, je vais essayer de créer un pont un petit peu entre les astrologues et les critiques. Et petit à petit, je me suis rapproché des critiques, des sceptiques. Et puis finalement, je suis passé de l'autre côté. Donc maintenant, quel est le côté obscur? Ça, c'est autre chose. Et donc maintenant, je suis membre du bureau d'une association sceptique qui est à Grenoble, en France, et qui s'appelle l'Observatoire Zététique. Et donc, je continue à travailler sur l'astrologie, sur une approche critique de l'astrologie. Donc la grosse différence avec ce que vous avez vu par ailleurs, c'est que je connais la chose de l'intérieur, ce qui fait que j'ai une approche qui est plus fine, on va dire, plus nuancée, plus pointue, plus technique en plus. Ce qui fait que, vous verrez, j'espère, proposer quelque chose de neuf. Et voilà un petit peu mon parcours et ce qui fait mon originalité. Donc, s'il y a des questions.
C'est quoi qui vous a plutôt poussé à commencer
à croire?
Au début, en fait.
Alors, j'allais dire, c'est un peu comme tout le monde, entre guillemets, c'est quelque chose de très banal. C'est un chagrin d'amour. Ça a commencé comme ça. Et donc j'étais jeune, j'avais 19 ans, et en fait j'étais très amoureux, ça s'est très mal terminé, et j'avais pas du tout les structures pour supporter ce genre de choses, je me suis effondré. Donc pendant 2 ans j'ai été effondré, j'étais étudiant, je planais, etc. Et c'est comme ça qu'en fait je suis tombé un petit peu, j'ai essayé de toucher un petit peu à tout, à l'astrologie, la numérologie, je suis allé consulter les voyants, tout ça. Et donc ça a commencé comme ça. Et donc... Pour l'anecdote, le moment qui pour moi est clé à ce niveau-là, donc j'avais pas prévu d'en parler ce soir, donc ça tombe bien, j'en parle maintenant. En fait, j'ai 19 ans à ce moment-là, et j'achète les prédictions annuelles de Didier Derlich, un astrologue qui maintenant est décédé, mais qui était en France, pour le Verseau, pour l'année, 19 ans, ça devait être 93, quelque chose comme ça. Et avant les prédictions, il y avait un petit portrait du Verseau. Il se trouve que quand j'étais jeune, quand j'avais 10 ans, je me suis fait mordre au visage par un chien, donc qui m'a vraiment défiguré. Ce qui fait que dans ma vie, il y a un avant et un après cette morsure. Et donc c'était à mon entrée au collège, et au moment où mes parents se séparaient, donc c'était une super période, ce qui fait que mes années collège, ça a été un petit peu chaud, et puis donc je me suis très très introverti, et j'ai commencé à m'introspecter, donc j'avais 10 ans. Et donc, je me suis posé plein de questions, et je me suis rendu compte que les gens ne se posaient pas les questions que je me posais, je me suis construit un profil de moi-même, que vraiment je ne retrouvais chez personne. Et puis donc, à 19 ans, j'achète ce petit bouquin-là, juste pour les prévisions, je lis Portrait du Verseau, et je me prends des claques dans la figure. C'est-à-dire que dedans, il y avait les grandes lignes de ce que je m'étais construit, moi. C'est-à-dire une personne introvertie, qui pense à l'avenir, qui est un peu dans sa tour d'ivoire, qui a du mal à communiquer avec les gens, qui... Enfin bon, plein de choses. Et je me suis dit, je savais que c'était destiné à un 12e de la population, mais en même temps, moi, je trouvais pas ça autour de moi, et je me disais, mais ça me correspond tellement, c'est pas possible, il doit y avoir quelque chose. Et c'est comme ça vraiment que je suis tombé dedans. Je me suis dit, là, il faut que j'aille approfondir. Et j'ai commencé comme ça, à pratiquer. Et puis après, ben, quand on commence à pratiquer en essayant de voir comment ça marche ou pourquoi ça pourrait marcher, on y prend vite goût, en fait. Donc voilà, ça a vraiment commencé comme ça, donc de façon un petit peu ordinaire, j'ai envie de dire, pour moi. Maintenant, j'ai... Et puis en fait, ça a pris des années. Et puis j'ai contacté le milieu astrologique un jour où j'ai écrit un texte sur la critique des horoscopes, déjà, en 2003. Et puis c'est comme ça que j'ai pris contact avec le milieu astrologique. Je suis allé à une assemblée générale, et puis ils changeaient leur bureau, et il n'y avait personne pour prendre la trésorerie. Et comme moi j'aime bien les chiffres, je me suis dit, allez, je vais le faire. Et hop, je me suis retrouvé au bureau, et puis c'est parti comme ça, en fait. C'est un petit peu des petites contingences qui font que, ben, petit à petit, voilà. Puis après c'est des années qui passent, des réflexions, des désaccords, des désaccords. Et puis comme je vous l'ai dit au début, petit à petit, du recul, prendre du recul, de la distance. Et c'est un très très long cheminement, en fait. Il y a plein de choses qui interviennent. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions.
Quand petit à petit on y prend goût, y prendre goût, ça veut dire on se prend pour Dieu ?
Ah, bonne question. Pour Dieu, non, bien sûr que non, mais comment dire ? Moi, comme je l'ai pratiqué, donc en amateur en fait, hein, je ne me suis jamais fait payer, j'ai jamais été professionnel. En fait, je faisais des thèmes de naissance et puis je discutais avec les gens de ce qui était dans le thème de naissance. Et donc, avec les jugements astrologiques, ben, vous êtes plutôt comme ça, etc. Et puis, ben, ça permet de discuter avec les gens, et puis de rentrer un peu dans leur intimité, d'avoir des discussions un petit peu philosophiques. Et puis, en fait, c'est un échange humain. Donc, c'est agréable. En plus, ben, vous êtes un petit peu celui qui sait.
Pas grand-chose.
Non, plutôt d'autorité. Non, pas de puissance, non, parce que c'est... Moi, très souvent, c'est comme ça que je le disais, parce que j'étais jeune, donc je ne connaissais pas beaucoup de choses à la vie non plus. Et donc, en gros, je disais, ben voilà, c'est ce que dit l'astrologie, donc moi, je transmets. Après, on en discute, on essaie de comprendre ensemble. Donc peut-être qu'avec 20 ou 30 années de pratique de plus, on a un autre discours, effectivement. Moi, je n'avais pas, j'avais pas cette assurance, par exemple.
Il n'y a pas donc, que il y a aussi le fait d'être professionnel.
Ben, il y a aussi ça, oui, peut-être en se professionnalisant, peut-être qu'on prend aussi encore plus d'assurance. Mais en même temps, quand on dit quelque chose sur la personnalité, que la personne nous dit « bah oui, effectivement », et puis on commence à en discuter, on se dit « mince, mais ça peut pas être le hasard ». Puis en fait, après, quand on approfondit le truc, on se rend compte qu'il y a plein de biais, donc il y a plein de raisons de penser que ça marche, alors que ça marche pas vraiment. Ça donc je vais en parler tout à l'heure. Mais quand on est un petit peu, je sais pas, j'hésite entre candide, naïf, sincère, en fait, on y va et puis on ne garde que le positif. Donc en fait, quand on fait, mais c'est pas limité à l'astrologie, mais quand on parle aux gens et puis qu'on leur dit tout ce qu'on trouve de façon technique, il y a toute une partie qui est mise de côté en fait. Parce que soit ça ne correspond pas, enfin, soit c'est l'opposé carrément de ce que sont les gens. Donc on se dit, bon, ça non. Et puis on demande la suite. Soit bah, ça ne fait pas réagir. Est-ce que vous êtes comme ça ? Ah, franchement, je ne sais pas, ça dépend de quoi on parle. Bon, ben, on passe à autre chose. Et puis dès qu'il y a un truc qui touche, ah, ben, là, on s'arrête. Et puis on en parle. Ce qui fait que finalement, il y a un biais de sélection comme ça, qui fait que, ben, en fait, moi j'appelle ça la technique de la bataille navale. C'est un peu de la lecture froide aussi. C'est-à-dire, à la bataille navale, on ne sait pas où sont les bateaux, donc on tire. Puis à un moment, ça fait toucher. Ah, ben, qu'est-ce qu'on fait ? On va concentrer les tirs à côté. Et moi, dans la logique, c'est un petit peu pareil. Moi, c'est comme ça qu'à la fin, j'interprétais ma pratique. C'est-à-dire qu'on essayait des choses, on lit des profils, on lit des descriptions psychologiques, des choses comme ça. Et puis quand la personne accroche, et ben, ah, ça y est, on a trouvé quelque chose, et puis on y va. Et ça, c'est après des années que je l'ai vu comme ça, mais au début, c'était magique. C'était, ah ouais, ça correspond. Ou alors des fois, on a une image de la personne, donc évidemment, on n'a qu'une apparence. Et puis on lit un truc et on se dit là, on est complètement à côté. Donc voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est l'astrologie. Et puis là, la personne nous regarde et nous fait, mais c'est exactement ça. Et là, on se dit, mince, mais comment ça se fait? Et il y a un moment, ouais, on a l'impression d'être connecté à quelque chose qui nous dépasse, en fait.
C'est gentil de le dire, oui. Voilà. Un peu comme un thérapeute, tu dis, on a fait un thérapeute, il y a beaucoup d'intuition, et à mon avis, oui, une sensibilité exacerbée permet à mon avis de viser des choses plus
vite. Ah oui, bien sûr.
Et alors, ça donne un sentiment de supériorité, quand même,
nous, pas forcément.
On change.
Pas forcément, genre.
Pas forcément, ok.
Et au moins un contre-exemple.
Ben voilà.
C'est lui qui sait quand même, il a. Il sait. Enfin, je ne sais pas, une critique, c'est trop.
Alors en fait, il ne sait pas justement, puisque lui ne fait qu'utiliser ce qui est censé être dans la tradition, dans les symbolismes. Donc finalement, ce n'est pas vraiment lui qui sait. Il traduit quelque chose, si vous voulez. Si vous avez Mercure en Verseau, alors la forme de votre intellect est censée être de telle ou telle façon. Ce n'est pas vous qui le dites, ça, c'est pas vous qui le savez. C'est la tradition qui transmet quelque chose. Donc, ce n'est pas comme de la voyance, par exemple. Je ne sais pas si vous voyez la différence.
Et les gens qui croient à la voyance, c'est plutôt eux, par contre, ils se rendent quand même compte.
Alors, pour moi, comment dire?
Je veux bien quand il regarde dans les astres et donc quand il a des formules et donc là, c'est la position des astres qu'il lui dit, il peut dire à la personne. Mm-hmm. Mais la position des cartes, par exemple.
Donc les tarots, ça marche un peu pareil.
Alors, en fait, ils ont toujours un support, en fait. Ils ont pas besoin de se dire.
Oui, j'ai envie de dire, enfin, moi je vais vraiment rester dans l'astrologie, parce que pour moi la voyance, c'est pas, il y a une partie commune, mais pour moi c'est quelque chose de différent. L'astrologue, c'est vrai, enfin moi les astrologues que j'ai rencontrés en tout cas, il n'y en a aucun qui disait, moi j'ai un don. Il disait, j'ai beaucoup d'intuition, ça me parle, des choses comme ça, mais d'avoir un don de voyance par exemple, ou des choses comme ça, c'était pas quelque chose que j'entendais. Il y en a qui pensent qu'ils l'ont. Et qui font de la voyance et de l'astrologie, mais c'est eux qui disent ça. Les voyants, pour moi, c'est quelque chose d'à part, dans le sens où moi, je connais la technique astrologique, donc je vois comment pratique l'astrologue. Le voyant, c'est différent. Après, avec les gens que j'ai croisés, que ce soit dans l'astrologie ou simplement dans ma vie personnelle, moi, j'ai croisé beaucoup de personnes qui, dans la vie de tous les jours, comprennent des choses, mais sont incapables d'expliquer pourquoi. Ils les ont comprises. Et moi, je ne serais pas étonné que chez certains voyants, il y ait des phénomènes comme ça. En termes d'introspection, je ne sais pas, ils ont peut-être des fonctionnements qu'eux ne perçoivent pas, mais qui sont tout à fait normaux, en fait. Pour moi, il n'y a pas forcément besoin que ça soit magique. Et comme eux ne perçoivent pas les raisons pour lesquelles ils comprennent que la personne, il risque de lui arriver telle chose, qui finalement est quelque chose qui peut arriver régulièrement. Je vais expliquer ce que je viens de dire. Quand on consulte, au bout de, je sais pas, peut-être 1000 ou 2000 consultations, il y a quand même des profils qui reviennent régulièrement. Ce qui fait que les gens vivent souvent les mêmes choses, en tout cas sur certaines problématiques. Donc quand les gens connaissent un petit peu les fonctionnements, bah, ils savent très bien comment ça va se passer. Il n'y a pas besoin d'être voyant pour ça. J'ai envie de le dire. Et donc, à mon avis, il y a des automatismes comme ça qui font que, bah, en fait, on comprend un petit peu les gens. On arrive à sentir un petit peu, ouais, toi tu dis ça, tu penses ça, à mon avis, il y a ça qui va se passer. Et je pense qu'il y en a qui pensent vraiment que c'est de la voyance, alors qu'en fait, c'est juste ben, de la lecture de l'autre. Après, c'est toujours ce que j'aime bien opposer aux astrologues, et donc sur ce coup-là, aux voyants. Si on pouvait faire la part des choses entre peut-être de la voyance, un truc qu'on n'explique pas, et tout ce qu'on peut expliquer justement par ce que je viens de dire, après, ben, mettons ça de côté, et puis regardons ce qui reste. Et je pense que ce n'est pas une démarche qui existe du côté des voyants. En tout cas, elle n'existe pas du côté des astrologues. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu. En fait, mon avis, il y a des gens qui ne se rendent pas compte de pourquoi ils arrivent à comprendre les autres, à les sentir, et pour eux, c'est magique. Et il y a des astrologues comme ça qui ne comprennent pas comment ils manient les symboles astrologiques. C'est de la symbolique, en fait. Et ça se passe pas au niveau de la raison. Mais... après, ça vient plus de la personne, en fait. Est-ce qu'elle attribue une dimension supérieure, ou est-ce qu'elle le fait pas?
Pour beaucoup, c'est une cible.
Je me demandais, dans la pratique de l'astrologie, par exemple en France, parce que j'imagine que selon les endroits du monde, ça peut y avoir... par exemple, est-ce qu'en France, est-ce qu'il y a, entre guillemets, différentes écoles qui, par exemple, peuvent carrément se contredire ou qui se tirent dans les pattes?
Bien sûr, complètement. Ça fait partie de ma critique, justement. Est-ce qu'on peut rendre compte du fait que les astrologues ne sont pas d'accord entre eux? Parce que ça remet complètement en question la notion de tradition, par exemple. Oui, mais l'astrologie a 5000 ans. Moi, déjà, je ne suis pas d'accord avec le 5000, mais ça, c'est une autre question. Mais 5000 ans, et on n'est pas tous d'accord, il y a un problème. Donc oui, bien sûr, il y a des différentes écoles qui existent, il y a différents courants, et il y en a certains qui sont vraiment incompatibles. Donc moi, l'anecdote que j'ai à ce niveau-là, c'est quand j'étais donc à la FDRF, elle a été montée en 96, cette fédération, dans l'espoir de mettre un peu tous les astrologues de France en relation, pour qu'ils puissent s'organiser. Limite, dans l'espoir de monter un syndicat professionnel. Parce que c'est une profession pour ces gens-là. Et en fait, donc ils ont eu un rendez-vous au ministère, le ministère du Travail les a reçus, leur a dit, ça nous intéresse, si on peut un petit peu rendre les choses plus carrées dans la profession, mettez-vous d'accord et vous revenez nous voir. Et bien voilà. Et donc, ils n'ont pas pu se mettre à la même table. Il y en a qui n'ont pas voulu s'asseoir à la même table que l'autre, tellement les écarts sont énormes entre les gens, et ils n'ont jamais réussi à faire consensus sur quoi que ce soit. Donc oui, bien sûr, en astrologie, il y a des écoles, elles ne sont pas d'accord les unes avec les autres. Certaines ont des points communs, des désaccords, il y en a qui sont complètement opposés. Et là, moi, je parle que de ce que je connais au niveau de la France, au niveau, je dirais même, francophone, on va dire. Après, il y a vraiment, d'un pays à l'autre, la culture qui entre en jeu. Et là, on voit que ça varie vraiment d'un pays à l'autre, il y a des choses qui se rajoutent. Moi, quand je lis les astrologues américains, par exemple, c'est très teinté, c'est différent de ce qu'on lit en France. En France, on a vraiment une influence, je ne sais pas si c'est cartésienne, mais en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas comme ailleurs. Après, si on va voir plus loin, il y a d'autres astrologies qui existent dans le monde aussi. Donc l'astrologie chinoise, l'astrologie hindoue aussi, qui sont vraiment différentes, complètement différentes de l'astrologie qu'on connaît nous. Et différentes au point qu'elles ne sont pas compatibles. Donc ça fait partie des contradictions en fait aussi qu'on peut lancer à l'astrologie. Donc voilà, ouais. Et donc vous commenciez à dire qu'il y en a qui considèrent que l'astrologie est une science.
Oui.
Donc des astrologues en fait surtout. Et vous avez un exemple, alors, quelque
moi,
chose
c'est, ou... J'avais un colocataire qui était à fond dans...
D'accord, oui.
C'était la première science.
Oui, bien sûr, la plus ancienne, la mère de toutes les autres, et tout ça. Donc, moi, juste pour les embêter, c'est ce que je disais aux astrologues, c'est que pour faire de l'astrologie, il faut de l'astronomie. Donc, si l'astrologie, c'est la plus vieille science, elle est plus vieille que l'astronomie. Mais si elle est plus vieille que l'astronomie, elle ne pouvait pas exister avant.
Peut-être qu'il n'y avait pas de distinction.
Ah, pardon, si je parle pas assez fort, oui.
Peut-être qu'il n'y avait pas de distinction à la base.
Et justement, je vais dire quelque chose. Donc le monsieur disait que son colocataire disait que l'astrologie c'était la plus vieille des sciences, c'était la plus ancienne. Et donc les historiens ont travaillé là-dessus aussi, et c'est vrai que quand on pratique l'astrologie, il faut des notions d'astronomie. Donc l'astrologie techniquement ne peut pas exister sans l'astronomie. Ce qui fait que si l'astrologie est la plus ancienne science, elle est plus vieille que l'astronomie. Et si elle est plus vieille que l'astronomie, elle ne peut pas exister, techniquement parlant. Alors, donc pour moi, ça, c'est une contradiction. Pour moi, effectivement, l'astrologie, d'ailleurs, quand on va voir vraiment comment ça s'est passé, le zodiaque apparaît vers 500 avant Jésus-Christ, par exemple. Et donc, l'astrologie qu'on connaît, nous, en France, qu'on appelle l'astrologie tropique, s'est vraiment formée dans les 500-600 années qui ont suivi, et plutôt en Grèce, alors que le zodiaque a été inventé en Mésopotamie. Donc, l'astrologie, déjà, il n'y a pas une date, quand on regarde... Si on regarde les outils de l'astrologie, il y en a qui apparaissent donc 500 ans avant Jésus-Christ, d'autres c'est 300 avant, un autre c'est 100, et un autre c'est encore 400 ans après. Donc le système déjà qu'on utilise aujourd'hui, qu'ils utilisent, a mis quasiment 1000 ans pour se former. Donc ça par exemple, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas dans l'esprit des astrologues. Et donc, si on veut chercher l'origine donc, de l'astrologie, elle est finalement après, alors qu'avant l'apparition du zodiaque, donc en Mésopotamie, il y a déjà 1000 ans pendant lesquels les premiers observateurs du ciel ont commencé à dire des choses, à mesurer un peu on va dire ce qui se passait dans le ciel, mais il le faisait de façon complètement différente de ce que font les astrologues. Donc ça amène vraiment à des contradictions en termes d'astrologie la plus vieille des sciences. Et donc, pendant longtemps, on n'a pas distingué effectivement l'astrologie et l'astronomie, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai, parce que quand on dit pendant longtemps, on pense surtout à la Renaissance, au Moyen-Âge, peut-être remonter un petit peu jusqu'en Grèce, mais il faut remonter encore avant si on veut vraiment aller aux origines. Et au tout début, j'ai envie de dire, l'astrologie n'existe pas. Puisque l'astrologie, vous allez le voir, c'est très très géométrisé, ça demande vraiment des bases mathématiques, on ne mathématise pas le ciel comme ça, et donc ces connaissances-là, les Mésopotamiens ne les avaient pas. Alors après, ça renvoie à une mythologie finalement des origines, et donc en astrologie, il y a une grande mythologie, on imagine la naissance de l'astrologie, mais on ne la connaît pas. Les historiens ont beaucoup travaillé dessus au XXe siècle, et puis le sujet était un petit peu abandonné, on ne sait pas trop pourquoi. Et moi, je me suis renseigné là, il n'y a pas très longtemps, parce que je m'intéresse beaucoup à l'astronomie mésopotamienne. Et en fait, il n'y a personne en France, par exemple, qui est spécialisé là-dedans. Les historiens des sciences ou de l'Antiquité, l'histoire de l'astronomie en Mésopotamie, c'est-à-dire il y a maintenant 3000 ou 4000 ans, il n'y en a pas. Dans le monde, il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Et donc, j'ai écrit à des universitaires qui m'ont répondu, mais il y a un article qui a été publié par un chercheur il y a 2-3 ans, pour se demander pourquoi il n'y avait plus d'historiens des sciences qui travaillent sur l'astronomie mésopotamienne. Donc je n'ai pas encore pu aller voir l'article, mais voilà. Donc c'est pour dire que les origines ont été étudiées au XXe siècle, pas mal aussi au XIXe, mais il manque un bilan, un bilan général. Donc ni les astrologues, ni même les historiens ne peuvent vraiment expliquer vraiment comment tout a commencé dans le détail. Et ce n'est pas seulement parce qu'on manque de sources, c'est aussi parce qu'on manque de personnes. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu un peu, ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous avez levé en même temps.
Non, mais c'est parce qu'en en parlant, finalement, je ne suis même pas sûre de l'astrologie. Est-ce que ça sert à définir la personne ou est-ce que ça sert à prédire son avenir?
Eh bien, en fait, ça sert à ce qu'on en fait. C'est-à-dire qu'on peut s'en servir pour parler de la personnalité, on peut s'en servir pour essayer de prévoir l'avenir, on peut s'en servir pour les deux en fait. Donc après ce sont des techniques, c'est-à-dire tout dépend comment on utilise le, bah, ce que je vous montrerai tout à l'heure en fait.
J'avais juste une question concernant la transmission des connaissances, en tout cas du corpus doctrinal en astrologie, comment les astrologues se transmettent-ils leurs connaissances puisqu'il y a plusieurs...
Moi, j'ai envie de dire, pour moi, ils ne se le transmettent pas, en fait. C'est-à-dire que, voilà, il y a des écrits, quand on remonte, il y a des écrits. Et juste pour le plaisir, je dirais, si on prend ce qu'écrivaient les Mésopotamiens, donc maintenant, il y a 3000 ans, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'écrivaient les Grecs il y a 2000 ans, qui est très différent de ce qu'écrivaient les Arabes autour de l'an 1000, qui est assez différent de ce qu'on faisait pendant la Renaissance, qui n'a absolument rien à voir avec ce qui se fait aujourd'hui. Donc, c'est difficile en même temps de dire qu'il y a une tradition qui se transmet, justement. Il y a plein de problèmes à ce niveau-là. Et donc, c'est pour ça que pour moi, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment une connaissance qui se transmet. Après, il y a des familles de symboles, il y a des familles d'interprétations qui restent, mais ce n'est pas vraiment, c'est pas carré du tout, en fait.
Mais aujourd'hui, par exemple, voilà, vous-même, vous avez suivi entre guillemets, un cursus ou quelque chose comme ça. Comment est-ce qu'ils se transmettent
Alors, il y a des écoles d'astrologie.
Des écoles.
Oui. Donc ce sont des écoles privées, c'est pas reconnu bien sûr, mais en fait, comme on disait tout à l'heure, il y a des chapelles, il y a des écoles différentes, alors des écoles, c'était au sens métaphorique tout à l'heure, là c'est vraiment concret, et donc des astrologues qui enseignent des astrologies qui ne sont pas compatibles entre elles, ben, chacun a son école, ce qui fait que chacun a ses élèves, donc il y a des gens qui s'inscrivent pour une formation comme ça, et pendant quelques années ils s'initient à l'astrologie, mais c'est un petit peu chacun la sienne. Donc... comme ça, il y a l'astrologie traditionnelle, il y a l'astrologie karmique, qui a pas mal de succès, avec les vies antérieures, il y a l'astrologie psychologique, qui est pas mal aussi, qui est pas mal, je veux dire, qui attire des gens. Et puis après, il y a d'autres astrologies purement symboliques. Il y a aussi l'astrologie conditionnaliste, dont je parlerai un petit peu, qui est très très technique, qui a créé un schisme même dans les années 70, on verra tout à l'heure. Donc il y a des tas d'écoles, en fait. Donc voilà, en termes de transmission, c'est...
Ma question, c'était, est-ce que, enfin, je pense que oui, est-ce que la, dans, enfin, historiquement, est-ce que l'astrologie s'est constamment nourrie de l'astronomie, enfin, je suppose que par l'astronomie, il y a pas mal évolué au cours du temps. Est-ce que l'astrologie a justement se nourrit de ces changements?
Alors, c'est assez facile de répondre, en fait. On va dire jusqu'au XVIIe siècle, en gros, l'astronomie n'était pas causale. Il n'y avait pas de physique en astronomie. Donc on ne savait pas qu'il y avait des forces dans l'univers qui pouvaient expliquer comment gravitent les planètes. Ça, c'est arrivé déjà à la fin du XVIIe. Donc il y a vraiment un avant et un après. Parce qu'à partir du moment où il y a une causalité, là, on peut tenter d'expliquer les choses. Et à partir de là, ça n'explique rien. Vraiment, on n'arrive pas à rendre compte de la différence. Par exemple, qu'est-ce qu'un signe astrologique? Quelle différence entre le signe du Verseau et celui d'à côté, le Poisson, astronomiquement parlant? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. En termes d'influence gravitationnelle, les influences qu'on pourrait subir, par exemple, des différentes planètes, elles ne sont pas rangées dans le même ordre que ce qu'on pouvait penser. Parce qu'il y en a qui sont plus grosses que prévu, d'autres plus près, donc ça ne correspond pas. Donc en fait, l'astrologie, à partir du moment où l'astronomie est devenue causale, il n'y a plus vraiment d'influence. C'était plus possible. Par contre, avant, tant qu'elle ne l'était pas, donc on parle d'astrométrie, c'est-à-dire qu'on balisait le ciel, c'est purement géométrique, vu de la Terre. Et à ce moment-là, oui, l'astrologie, s'inspirait de tous les petits points qu'on pouvait placer pour repérer les planètes, le trajet des astres, le lever du soleil, des choses comme ça. Donc c'est très complexe de ce point de vue-là, mais c'est purement géométrique en fait. Et donc pareil, je le dirais tout à l'heure aussi, c'est vrai que quand un astrologue, moi ça c'est un des trucs par exemple qui m'a beaucoup gêné quand j'y croyais, c'est que donc voilà, par exemple à un moment, je sais pas, on va dire, il y a un accident et il se trouve que Mars est en carré à quelque chose à ce moment-là. Donc Mars c'est l'énergie, le carré c'est assez négatif, c'est des choses qui peuvent rendre compte du sens d'un accident. Mais la question que je me posais, bon d'accord, Mars est là à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'elle est là et qu'elle est en rapport avec la situation? Elle est là, d'accord. Mais pourquoi elle serait en rapport? Et j'avais pas de moyen de déterminer pourquoi elle aurait pu avoir, alors si c'est pas vraiment une influence physique, quelque chose d'autre, mais comme il n'y avait pas de causalité, parce que c'est toujours comme ça en astrologie, il y a des configurations positives et négatives en permanence. Donc quand vous avez un accident aussi grave qu'il soit, vous pouvez toujours, en cherchant bien, trouver quelque chose de négatif, mais il y aura toujours aussi une configuration positive. Alors comment rendre compte que c'est pas elle qui a agi, mais que c'est l'autre? Eh bien, c'est indécidable, en fait. C'est-à-dire que c'est l'astrologue qui dit, ben voilà, je vais, moi, pour interpréter l'accident, ben voilà, je vais plutôt le carré de Mars, ça permet d'expliquer plus de choses. Et le côté positif, si c'est vraiment une grosse configuration qu'on ne peut pas mettre de côté, ben on va essayer de voir comment tirer du positif de tout ça. Le grand classique, comment on dit, en gros, si un accident vous empêche de travailler, vous arrêtez, c'est peut-être un message, c'est peut-être le moment de changer de voie, peut-être qu'il y avait, vous avez autre chose à faire ailleurs. Voilà, donc après on essaye de trouver du sens, en fait, de donner du sens ou d'en trouver. Mais en tout cas, voilà, la causalité étant absente, on ne peut pas décider. Donc c'est selon le sens qu'on donne, qu'on veut donner. Voilà. Donc pour moi, il y a un avant et un après l'arrivée de l'astronomie scientifique, en fait.
On a intégré Pluton, comment on l'a
découvert ? Oui, bien sûr. Bien sûr, Pluton est...
Est-ce qu'on a enlevé maintenant ?
Eh bien non, justement. Et j'ai envie de dire, pour les mêmes raisons.
Et les autres planètes
même ? Ah oui, ouais, bien sûr. Il y en a qui voudraient essayer, mais ça pose des problèmes techniques, en fait. Pour ce qui est de Pluton, donc découverte en 1930, elle a été, bien sûr, elle a été intégrée au système astrologique. Et en fait, Pluton, on l'a associé au Scorpion notamment, et donc ça a donné un symbolisme qui est très intéressant dans la consultation, parce que, enfin, quand je dis intéressant, dans le cas d'une consultation, parce que Pluton, ça parle des choses cachées, ça parle des choses qu'on ne dit pas, ça parle du plus profond de soi. Donc quand des gens viennent en consultation, c'est justement pour ça, pour essayer de comprendre ce qui se passe, des choses cachées, qu'ils ne maîtrisent pas, ce qui se passe au fond d'eux, etc. Ce qui fait que Pluton a un grand succès chez les astrologues, c'est très utilisé. Et donc, quand Pluton a été déclassé, ben, problème, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde Pluton? Est-ce qu'on l'enlève? Alors moi, j'étais à fond dans mes trucs à ce moment-là, donc je suis allé voir du côté justement négatif en disant, mais qu'est-ce que ça change ou pas? Et puis finalement, pourquoi est-ce que Pluton a tant plu aux astrologues? Et finalement, donc, ce qu'il y a, c'est que, étant donné qu'il n'y a plus cette relation à la causalité, En fait, il n'y avait pas de raison pour que les astrologues enlèvent Pluton de leur système. Parce que finalement, alors c'est ce que disent les astronomes, en fait, hein, que Pluton soit une planète ou une planète naine, ça ne change rien. Ça ne change rien à Pluton, c'est un classement qui change. Et moi j'aime bien quand j'entends dire que Pluton n'est plus une planète, ce n'est plus une planète, c'est une planète naine. Je ne sais pas si vous voyez la contradiction. C'est toujours une planète en fait, c'est juste que bon, on a changé la catégorie. Donc il y a même des astrologues qui disent, ben, c'est comme si vous prenez une bouteille et que vous changez l'étiquette. Dans la bouteille, il y a toujours la même chose. Donc moi à ce niveau-là, je suis assez d'accord avec eux en disant que ça ne change rien. De toute façon, ils n'utilisent pas la planète Pluton en fait. C'est un Pluton imaginaire qu'ils utilisent. Donc, eux n'avaient pas de raison, en fait, de l'enlever.
Du coup, il y a Cérès, Cérès...
Ah oui, bien sûr. Alors, le problème, c'est qu'il y a des bouquins entiers qui ont déjà été publiés sur l'astrologie de Cérès. Donc, il y a des astrologues qui l'intègrent depuis longtemps, déjà. Et donc, ils commencent à intégrer des astéroïdes. Je parlerai un petit peu de Chiron tout à l'heure aussi. Je veux dire, au contraire, les astrologues, ça les intéresse. Ce qu'il faut, par contre, c'est que l'astre est un nom. Il faut qu'il y ait un nom mythologique. C'est-à-dire que, je disais par exemple Chiron, j'en reparlerai, c'est dans la mythologie, je crois que c'est le centaure qui était capable de soigner tout le monde, sauf lui-même. Et ça, en termes de symbolisme, pour quelqu'un qui est dans une consultation, c'est royal, quoi. Des gens qui s'occupent des gens autour d'eux, mais qui n'arrivent pas à être heureux eux-mêmes, il y en a tellement. Et donc les astrologues sont vraiment imprégnés de ça. Donc l'astrologie, il y a vraiment un côté humain comme ça. Et donc, moi, chez une fois, j'avais vu dans une revue, donc quand on a découvert Eris, par exemple, une planète donc, qui est un peu plus loin que Pluton et qui est à peu près de la même taille, quand on l'a découverte, elle n'avait pas de nom. Donc, je ne sais plus, on va dire qu'elle s'appelait X114b. Et donc, ça a duré pendant quelques mois ou quelques années. Et je me rappelle avoir vu dans un journal d'un astrologue, donc une publication astrologique, un astrologue qui était vraiment en colère en disant « mais c'est pas possible, ils le font exprès, ils ne lui donnent pas de nom, donc on ne peut pas commencer à interpréter ». C'est voilà, des fonctionnements de l'astrologie où on voit qu'on est quand même très très loin de l'astronomie en fait.
Un peu la fantaisie des gens qui nomment les...
Ah mais complètement.
Oui,
bonsoir. Alors c'est une grande question chez les astrologues. Est-ce que les astronomes choisissent les noms au hasard ou est-ce qu'ils sont guidés pour choisir les bons noms?
Ils sont guidés par les astres.
Parce que ça marche après.
Le signe.
Comment?
Le serpentaire.
Alors le serpentaire, c'est encore autre chose. Donc ça, j'en parlerai pas ce soir. Le serpentaire, c'est l'histoire de la 13e constellation. La 13e constellation, en fait, c'est quand on suit les constellations que traverse le Soleil dans l'année. Donc il en traverse 13. Et donc on parle de zodiaque astronomique. Et le zodiaque astronomique, si on respecte cette définition, devrait contenir 13 constellations. On peut dire qu'il les contient d'ailleurs. Le problème étant qu'en astrologie, il n'y a pas 13 signes, mais il y en a 12. D'où le grand problème. Alors, que font les astrologues? Il y a 13 constellations, mais il n'y a que 12 signes. Le problème, c'est est-ce qu'un signe astrologique, c'est une constellation? Et tout est là, en fait. Et le problème, c'est que ce n'est pas le cas. Les astrologues ne définissent pas le signe astrologique par rapport à la constellation. Comme je vous l'ai dit, l'astrologie, c'est vraiment de la géométrie pure. Et les signes astrologiques, qu'est-ce que c'est? Ben, la ligne que parcourt le Soleil a été coupée en 12 parties égales, et voilà, on a les 12 signes astrologiques. C'est tout. C'est mathématique, en fait. Il n'y a rien d'autre. Et quand je dis mathématique, je le dis en tant que sceptique, c'est-à-dire les mathématiques, c'est juste des mathématiques. Tant qu'on ne les applique pas à la réalité, ça reste juste des mathématiques. Donc la géométrie, par exemple, ça reste de la géométrie. Un triangle, c'est un triangle, il n'y a rien de mystérieux derrière un triangle. Les constellations, le problème, c'est que quand on suit le trajet du Soleil, donc elles n'ont pas les mêmes étendues, par exemple, et puis, donc elles ne sont pas tout à fait au même endroit, elles se sont décalées en 2000 ans. Donc, pour les uns, c'est une contradiction, en disant, bah, les astrologues, c'est pas normal, il y a 12 signes, en plus, c'est tout décalé. Et pour les astrologues, bah, eux, ils le savent depuis le début. On se réfère à Ptolémée, qui était un astronome qui a marqué l'histoire de l'astronomie au deuxième siècle de notre ère, et qui lui était déjà astronome et astrologue à l'époque, et donc qui a bien distingué les signes des constellations en disant, bah oui, ce sont deux systèmes de repérage différents, et donc il faut interpréter dans les signes. Bon, les justifications, ça n'allait pas beaucoup plus loin, mais il fallait interpréter dans les signes. Donc moi, je suis embêté avec cette critique, parce que pour moi, on parle de deux systèmes de repérage différents, donc il n'y a pas de contradiction en soi. S'il y a une contradiction, c'est le fait d'avoir gardé les mêmes noms. À la rigueur. Mais sinon.
Oui, on aurait pu les appeler autrement.
Comment ?
Puisque c'est des systèmes différents, on aurait pu leur donner un nom différent, ça n'aurait rien changé.
En théorie, oui.
Ouais. Bah là, on perd la symbolique qui est derrière les noms des constellations.
Complètement. Ça se joue tout au niveau du symbole, en fait, c'est ça le problème.
Il faut trouver des nouveaux traits à relier.
Oh, ça, c'est pas un problème. Ça, si on voulait, on pourrait, oui.
Ouais, donc, il y a tout le panthéon dans lequel piocher au fur et à mesure du mode découverte.
Comment
ben, je reviens un peu sur toutes les planètes naines, tout ça.
Oui.
Il suffit en fait de regarder ce qui est en panthéon mythologique.
Ah oui, bien sûr.
Qui n'est pas encore.
Bien sûr. Et bien sûr.
J'ai peur de poser cette question des exoplanètes.
Bah, c'est une question qui se pose. C'est une question qui se pose que moi je me posais à l'époque, notamment quand Pluton a été déclassé. Alors moi, comme j'y répondais, justement, je bottais en touche pour une raison technique. C'est-à-dire que ce qui fait que l'astrologue peut interpréter les positions des planètes, c'est qu'en fait, on les voit se déplacer. Alors si on ne les voit pas à l'œil nu maintenant, on les voit à la lunette. Donc en fait, on peut interpréter des déplacements sur la voûte céleste. Donc une planète, elle fait le tour du Soleil en quelques dizaines d'années, voire quelques centaines jusqu'à Eris. Si on parle d'une exoplanète, c'est-à-dire d'une planète qui tourne autour d'une autre étoile, le problème, c'est qu'on ne la voit pas se déplacer. Parce que l'étoile en question, pour nous, elle reste toujours au même endroit dans le ciel, ce qui fait que la planète va être au même endroit aussi. Donc très concrètement, pour un astrologue, la planète ne va pas se déplacer dans le zodiaque. Donc il ne peut pas trop l'interpréter. Alors il y avait une contre-argumentation sceptique qui m'embêtait bien à l'époque, c'était qu'il y a deux façons d'interpréter en astrologie. Il y a le mouvement de l'astre en question, mais il y a aussi les mouvements des autres astres par rapport à lui. Donc techniquement, ça, en théorie, oui, on pourrait envisager qu'il y a une planète à un endroit et que les astrologues interprètent les mouvements des autres planètes par rapport à celle-là. Mais ça devient un peu plus compliqué et je ne pense pas qu'ils le fassent. Je pense que les 20 minutes sont bientôt terminées.
Les autres signes, les Mayas qui ont le système et que le système leur peint des choses comme ça.
Par rapport à l'astrologie chinoise, alors non, peut-être. Ah ben voilà. Comme une question. En fait, tout ce qui est Maya, personnellement, je ne connais pas. Je ne pourrais pas vous dire là-dessus. Pour ce qui est de l'astrologie chinoise, en fait, la question qui m'était posée à l'époque aussi, c'est que la définition n'est pas la même. C'est-à-dire qu'un signe astrologique, comme je l'ai défini là, c'est juste un cercle en 12 parties. Alors pour l'astrologie chinoise, en fait, c'est un signe par année. Donc la définition n'est pas géométrique, elle est purement calendaire. C'est-à-dire que le signe, c'est une année. Si j'ai bien compris, c'est une période de temps, en fait. Donc normalement, c'est pas la même chose. Ce qui fait dire à certains astrologues ici que c'est pas vraiment de l'astrologie.
Donc là, c'est pas basé sur les astres.
En Chine.
C'est basé sur la calendrier.
Alors voilà, j'avais croisé un astrologue chinois une fois, et en fait, il m'avait expliqué que l'astrologie qu'on connaît, nous, c'est comme les horoscopes chez nous, si vous voulez, c'est de l'astrologie populaire. Et dans celle qu'on connaît, effectivement, c'est purement calendaire, il n'y a pas d'étoiles. C'est de mémoire, chaque année, c'est un signe, et en fait, il y a plusieurs éléments, donc on peut être du bois, de l'eau, de métal, etc. Donc en fait, une année sur 5. Une année sur 13, on change d'élément, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est purement calendaire. Par contre, il semblerait qu'il y ait une autre astrologie en Chine, où là, par contre, ils tiennent compte de centaines d'étoiles. Et ça, je ne connais pas. Donc ça, il faudrait aller voir de ce côté-là.
Je connais les 4
heures. Propose qu'on fasse une petite pause 5 minutes, le temps qu'on installe le matériel. C'est l'occasion d'aller prendre une bière.